Le journal est présenté par Thomas Larabi.
Bonjour à tous. Au moins 90 morts et des dizaines de blessés. Le bilan de l'attentat au camion piégé à Mogadiscio s'alourdit 24 heures après l'explosion. La capitale de la Somalie est toujours sous le choc et le bilan pourrait encore s'alourdir. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les regards se tournent déjà vers les islamistes Shebab. Les précisions de Nadine Hempstein.
Le maire de Mogadiscio s'attend à un bilan très lourd. Il craint le pire. L'attentat a touché que des civils, la plupart des étudiants. Le président somalien désorienté a fustigé les auteurs de l'attaque. Je cite « Cet ennemi s'emploie à mettre en œuvre la volonté destructrice du terrorisme international. Tout ce qu'ils font, c'est détruire et tuer », fermer les guillemets. Mais les autorités et l'armée somalienne n'ont pas vraiment les moyens de riposter. Gérard Prunier, historien, spécialiste de la Somalie.
Ce sera comme d'habitude, on va envoyer une colonne de gens de la Bissom qui tueront quelques civils, faute de mieux, parce qu'ils ne sauront pas qui est responsable. Et puis d'ailleurs, comme il n'y a plus d'armée, à la limite, on peut guère la tuer, parce que il faudrait encore qu'elle opère. En général, elle se cache. Et les combats contre les Shebab, ce sont des étrangers qui le font, des Ougandais ou des Éthiopiens, qui sont dans le cadre de l'alliance AMISOM de l'Union africaine. C'est-à-dire que finalement, les gens qui font les frais de la guerre, qu'ils soient tués par les Shebab ou par les Américains ou par l'AMISOM, c'est presque toujours des civils.
La Turquie a confirmé que plusieurs de ses ressortissants figurent parmi les victimes de l'attentat de Mogadiscio.
Les explications de Nadine Hempstein. Aux États-Unis, 5 personnes ont été blessées hier soir lors d'une attaque à l'arme blanche contre la résidence d'un rabbin près de New York. Les 5 victimes, des juifs orthodoxes hassidim, ont été transportées à l'hôpital. 2 sont dans un état critique. Il dit vouloir regagner la confiance du peuple. Le docteur en sciences politiques Abdelaziz Djerad est le nouveau premier ministre algérien. Cet ancien directeur de l'ENA à Alger a été choisi pour son profil de technocrate au-dessus des partis en pleine révolte populaire. Abdelaziz Djerad a déjà été pendant 2 ans secrétaire d'État sous le premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Les ours ukrainiens ne trouvent plus le sommeil. Les défenseurs de l'environnement tirent la sonnette d'alarme à Kiev. La météo particulièrement douce cette année perturbe l'hibernation des ours bruns. Or, la chaîne montagneuse des Carpates abrite plus de la moitié de la population d'ours bruns en Europe, principalement sur le territoire de la Roumanie et de l'Ukraine. Notre correspondant à Kiev, Stéphane Sion.
Dans la majeure partie de l'Ukraine, depuis plusieurs semaines, le thermomètre n'est pas descendu en dessous des 10 degrés. Une situation anormale pour un mois de décembre. Même les montagnes des Carpates, à la frontière occidentale du pays, ne sont pas recouvertes de leur manteau neigeux habituel. Et résultat, les ours ukrainiens se sont mis à faire des nuits blanches. Dans le parc naturel de Sinévir, en Transcarpathie, un sanctuaire montagneux pour des ours en semi-liberté, seulement 3 des 32 pensionnaires sont entrés en hibernation, alors que dans un centre de réhabilitation voisin, près de la ville de Lviv, 15 ours qui étaient entrés en hibernation se sont réveillés mi-décembre en raison de la douceur des températures. À Kiev, la météo alimente les conversations et à vrai dire, elle inquiète, tandis que les 6 ours du zoo de la capitale n'arrivent pas à trouver le sommeil. Les spécialistes se veulent rassurants, les ours ne seraient pas en danger, ces animaux seraient capables de supporter de telles phases d'éveil. Mais avec le réchauffement climatique et l'absence de flocons, la population devient nostalgique des longs et rudes hivers ukrainiens.
En France, gilets jaunes et syndicats étaient main dans la main hier pour le 24e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. 10 000 personnes ont battu le pavé dans plusieurs villes de France. Jacques Maréchal est membre de la CGT Moselle. Il a manifesté devant la gare de Metz hier. Pour lui, et malgré les fêtes, ce rassemblement était aussi important que les précédents. Et il appelle à une mobilisation encore plus forte début janvier.
D'abord, pour montrer au pouvoir que la mobilisation continue, contrairement à ce que disait Macron, il n'y a pas de trêve et pour nous, c'est aussi l'occasion de nous adresser à l'ensemble des salariés pour annoncer la mobilisation du 9 janvier. La réforme des retraites telle qu'elle est annoncée est une réforme qui va concerner l'ensemble du monde du travail, public, privé. Nous avons souhaité d'abord montrer notre solidarité avec notamment les cheminots qui sont dans une grève reconductible. Et en même temps, nous avons, par ce moment de rassemblement, nous voulons dire à l'opinion que la mobilisation continue. Pour nous, il est important maintenant que ce courant d'opinion se traduise par des mobilisations plus fortes dans les entreprises, par des arrêts de travail et par une participation importante à la mobilisation du 9 janvier prochain.
Jacques Maréchal, au micro de Noémie Kopp. Et la grève des cheminots qui perturbe toujours le trafic sur les rails comptait ce dimanche 6 TGV sur 10 et 1 Transilien sur 5 à Paris. trois lignes de métro, la 1, la 2 et la 14, sont ouvertes. Le gouvernement, lui, continue de lâcher du lest sur certains régimes spéciaux de retraite. Après les policiers, les hôtesses de l'air et les pilotes, l'exécutif se dit prêt à discuter avec l'Opéra de Paris et la Comédie-Française, deux institutions qui multiplient les annulations depuis le début du conflit. Plus de précisions dans le journal de 9h. La question de la fin de vie s'invite à nouveau dans l'actualité. Depuis le mois dernier, un médecin généraliste de Seine-Maritime est mis en examen et interdit d'exercice pour avoir aidé plusieurs patients en fin de vie à mourir. En leur administrant un puissant sédatif, le midazolam, autorisé à l'hôpital mais pas en médecine de ville. Jean-Paul Hamon est président de la Fédération des médecins de France. Il a décidé de défendre son confrère.
Pour protester contre le sort qui est réservé à ce médecin, qui est connu pour accompagner ses patients, pour faire des visites à domicile, pour accompagner les fins de vie, qui s'est formé aux soins palliatifs et qui a utilisé le midazolam avec parcimonie et en bonne indication, mais qui malheureusement n'a pas le droit officiellement de l'utiliser en ville. Et ce médecin actuellement est non seulement mis en examen, mais interdit d'exercice depuis plusieurs mois, ce qui est en plus catastrophique dans une zone où il a lui 2000 patients médecins traitants, dans la Normandie qui est un désert médical. Qu'il soit mis en examen, d'accord, mais qu'il soit interdit d'exercice, c'est inadmissible.
Et vous avez été confronté à ces situations, des patients qui vous demandent de les accompagner?
Mais dans certains cas, oui. Et puis, vous savez, malheureusement, on n'a pas toujours eu disposé du midazolam. C'est vraiment un combat qu'on doit mener. Si on doit dire que le médecin généraliste n'est plus capable d'accompagner ses fins de vie à domicile, les fins de vie de ses patients à domicile, qu'on le dise, qu'on l'écrive, ou alors qu'on envoie mourir tous les gens à l'hôpital.
Jean-Paul Hamon, au micro de Jules Dequisse. Un mot de la météo ce matin. Du soleil à peine voilé sur tout le pays, à l'exception de la région lyonnaise qui a le droit aux nuages. Il est 8h07, vous êtes bien sur France Culture.